France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Aujourd'hui, nous terminons l'année avec un menu spécial fête. D'abord, le Moulin Rouge et tous les artistes qu'il a inspirés, racontés dans un livre signé Francesco Rapazzini. Ensuite, la revue Paris Chérie et ses chansons polissonnes à l'affiche dans quelques jours. Je reçois pour en parler Christophe Mirambeau et Mathieu Frano. En fin d'émission, les orchestres enchantés de la Saint-Sylvestre proposés par Serge Elaïc. Mais pour commencer, et ce sera la seule petite note de tristesse, salut aux merveilleux artistes qui nous a quittés cette semaine et qui nous laissent heureusement tant de belles chansons.
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette, nous étions quelques bons copains. Il y avait Fernand, il y avait Firmin, il y avait Francis et Sébastien. Et puis Paulette, on était tous amoureux d'elle, on se sentait pousser les ailes à bicyclette. Sur les petits chemins de terre, on a souvent vécu l'enfer pour ne pas mettre pied à terre devant Paulette. Faut dire qu'elle y mettait du cœur, c'était la fille du facteur à bicyclette. Et depuis qu'elle avait 8 ans, elle avait fait en le suivant tous les chemins environnants à bicyclette. Quand on approchait la rivière, on déposait dans les fougères nos bicyclettes. Puis on se roulait dans les champs, faisant naître un bouquet changeant de sauterelles, de papillons et de rainettes. Quand le soleil à l'horizon profilait sur tous les buissons nos silhouettes, on revenait fourbu content, le cœur un peu vague pourtant, de n'être pas un seul instant avec Paulette. Prendre furtivement sa main, oublier un peu les copains, la bicyclette. On se disait c'est pour demain, j'oserai, j'oserai demain. Quand on ira sur les chemins à bicyclette.
Yves Montand dans La bicyclette, une chanson de Pierre Barou qui nous a quittés cette semaine. Pierre Barou que j'avais eu la joie de recevoir l'an dernier, qui était un merveilleux invité et qui nous a laissé évidemment beaucoup de chansons, mais qui a été aussi l'inventeur du label Sarava, le complice de Francis Lay. C'était une très belle émission que vous pouvez d'ailleurs retrouver en lien sur le site de France Musique. Simplement pour retrouver un instant la voix de Pierre Barou, je vais vous faire écouter un passage parce que j'ai été très frappé dans les annonces de sa mort. Tout le monde a dit l'auteur, compositeur de Shabada Bada, vous savez, la musique d'un homme, une femme. Or, justement, j'avais posé la question un peu maladroitement à Pierre Barou et il m'a tout de suite corrigé parce que ça n'est pas exactement le Shabada Bada. On va écouter tout de suite, bah justement, quand même, Samba Sarava plutôt que Shabada Bada.
Oui.
Parce qu'il y a Baden-Powell aussi.
Non, mais Benoît.
Non, mais j'aime beaucoup Shabada Bada.
Non, mais justement, mais encore une fois, il n'y a pas de succès sans malentendu. Le Shabada n'existe pas dans la chanson.
Ah oui.
Comme nos voix, bada bada, chantent tout bas, bada bada, nos cœurs y voient, bada. Combien de joie, bien des drames, et voilà, c'est une longue histoire. Un homme, une femme, ont forgé la trame du hasard. Donc on tourne ça en dérision, en disant, ah oui, Pierre Barou, Shabada et tout ça, le Shabada n'existe pas.
Le malentendu incroyable.
Oui, mais c'est...
Thank you.
Être heureux, c'est plus ou moins ce qu'on cherche. J'aime rire, chanter, et je n'empêche pas les gens qui sont bien d'être joyeux. Pourtant, s'il est une samba, sans tristesse, c'est un vin qui ne donne pas l'ivresse. Un vin qui ne donne pas l'ivresse. Non, ce n'est pas la samba que je veux. Faire une samba sans tristesse, c'est aimer une femme qui ne serait que belle. Ce sont les propres paroles de Vinicius de Moraes, poète et diplomate, auteur de cette chanson, et comme il le dit lui-même, le blanc le plus noir du Brésil. Moi qui suis peut-être le français le plus brésilien de France, j'aimerais vous parler de mon amour de la samba, comme un amoureux qui n'osant pas parler à celle qu'il aime, en parlerait à tous ceux qu'il rencontre. J'en connais que la chanson incommode, d'autres pour qui ce n'est rien qu'une mode, d'autres qui en profitent sans l'aimer. Moi je l'aime et j'ai parcouru le monde en cherchant ses racines vagabondes. Aujourd'hui pour trouver les plus profondes, c'est la samba chanson qu'il faut chanter. Juan Gilberto, Carlos Lira, Dorival Caymmi, Antonio Carlos Jobim, Vinicius de Moraes, Baden Powell, qui a fait la musique de cette chanson et de tant d'autres. Vous avez mon salut. Ce soir, je voudrais boire jusqu'à l'ivresse, pour mieux délirer sur tous ceux que grâce à vous j'ai découvert et qui ont fait de la samba ce qu'elle est. Saraba, Peshinguin, Noël Rosa, Dolores Durand, Silvio Montero, et tant d'autres. Et tous ceux qui viennent, Edu Lobo, et mes amis qui sont avec moi ce soir. Baden, bien sûr, Ico, Osvaldo, Biggi, Oscar, Nicolino, Milton, Saraba. Tous ceux-là qui font qu'il est un mot que plus jamais je ne pourrai prononcer sans frissonner. Un mot qui secoue tout un peuple en le faisant chanter. Les mains levées au ciel, samba. On m'a dit qu'elle venait de Bahia, qu'elle doit son rythme et sa poésie à des siècles de danse et de douleur. Mais quel que soit le sentiment qu'elle exprime, elle est blanche de formes et de rimes. Blanche de formes et de rimes, elle est nègre, bien nègre dans son cœur. Mais quel que soit le sentiment qu'elle exprime, elle est blanche de formes et de rimes. Blanche de formes et de rimes, elle est nègre, bien nègre dans son cœur. Mais quel que soit le sentiment qu'elle exprime, elle est blanche de formes et de rimes. Blanche de formes et de rimes, elle est nègre, bien nègre dans son cœur. Elle est nègre, bien nègre dans son cœur.
Merveilleux hommage à la samba, enregistré d'ailleurs quasi improvisé par Pierre Barou avec Baden Powell, une des nombreuses histoires qu'il racontait dans cette belle émission que je vous invite à retrouver sur le site de France Musique. Hommage donc à Pierre Barou qui vient de nous quitter à l'âge de 82 ans.
Benoît Dutertre, Étonnez-moi Benoît, France Musique.
Mais puisque nous sommes donc le 31 décembre, j'ai aussi conçu pour vous un programme festif, et un programme festif dans lequel nous parlerons tout à l'heure de chansons polissonnes avec la revue Paris Chérie et mes deux invités Christophe Mirambeau et Mathieu Frano. Mais d'abord, pour ouvrir le repas, le menu, eh bien nous allons au plus grand cabaret du monde, le cabaret spectacle du Moulin Rouge qui a inspiré tant et tant et tant d'artistes, d'écrivains, de peintres d'une génération à l'autre. Pour en parler, je reçois aujourd'hui Francesco Rapazzini.
Mmh.
La musique de Georges Vamparis pour le film French Cancan. Bonjour, bonjour Francesco Rapazzini.
Bonjour Benoît.
Alors ça, ce sont les escaliers de la butte. On a reconnu le thème de French Cancan. Mais French Cancan, c'est aussi un film sur le Moulin Rouge qui est sorti d'ailleurs à quelques années d'intervalle d'un autre très grand film américain, celui-ci. French Cancan, Jean Renoir, John Huston pour Moulin Rouge. Ce sont deux films que j'imagine vous avez vus ou revus et comparés d'ailleurs dans votre livre quand vous avez consacré aux artistes du Moulin Rouge.
Oui. Tout à fait, ils sont deux films. Et un est sorti en 1952, oui. C'est lui de John Huston, et en 54, c'est lui de Jean Renoir.
Voilà.
Donc, ce sont deux années de différence entre deux films, et ce sont deux mondes complètement différents.
Vous avez un petit faible pour le Renoir, quand même. J'ai cru comprendre
en
vous lisant.
Oui, hein, absolument. Mais parce que le film de Huston, c'est un film un peu raté, même s'il a gagné les Lions d'argent à Venise.
C'est très cliché, quoi.
C'est très cliché et c'est aussi très mal joué par la vedette. C'était cette splendeur, c'était Zsa Gabor, c'était une Miss Hongrie. Mais bon, une chose être une Miss, une autre chose être
une comédienne.
Voilà. Et le film, en réalité, ce sont des histoires complètement différentes parce que Moulin Rouge s'est inspiré d'un livre écrit par un Français,
oui.
Pierre Lamure.
Pierre Lamure.
Voilà, c'était un Français qui vivait aux États-Unis et ce livre l'avait écrit directement en anglais, en américain. Et c'est l'histoire romancée de la vie de Toulouse-Lautrec.
C'est ça.
En revanche, Jean Renoir, il a raconté
les débuts,
oui. du Moulin Rouge. Donc la fin de la Reine Blanche avant de Moulin Rouge.
C'était le lieu qui existait à ce même emplacement, qui s'appelait la Reine
exactement.
Blanche,
c'était une
et qui était beaucoup plus populaire et même un petit peu malfamé, quoi.
Très malfamé.
Oui.
Et donc, le film de Jean Renoir avait une élégance, c'était très beau, c'était joué, le rôle principal était joué par Jean Gabin.
Voilà.
Et puis, il était entouré par des grands stars. Et Jean Renoir, on disait, et lui-même l'a un peu raconté, il a un peu repris les tableaux de son père, les couleurs de son père. Il était tourné en Technicolor. Et c'était fascinant, c'était magique.
Cela dit, la plus grande réussite du film de Huston aussi, c'est justement peut-être la couleur, hein, dites-vous.
Oui, oui, parce que lui aussi, c'était un des premiers films en Technicolor, et c'était magique. Il montrait, je parle de Huston, il montrait aussi le cancan, il montrait le quadrille, montrait comment on dansait autrefois. Et il a montré un peu le monde du Moulin Rouge au début.
Alors ce qui est fascinant, parce qu'on connaît tous plus ou moins ces deux films qui évoquent le Moulin Rouge, mais rien que dans les années 50, on voit dans votre livre une quantité de films qui se passent ou qui évoquent le Moulin Rouge. Si Paris l'avait su en 1950, Printemps à Paris en 1957, Une nuit au Moulin Rouge la même année. C'est incroyable, il n'y a pas un lieu dans Paris et peut-être dans le monde qui a inspiré autant de films, de livres, de peintures.
Comment vous expliquez ça ? Peut-être, je ne sais pas, mais peut-être la Tour Eiffel.
La Tour Eiffel, oui, certainement.
Et en plus, la Tour Eiffel et le Moulin Rouge sont nés la même année, en 1889. Donc oui, le Moulin Rouge a inspiré énormément. Mais je voulais dire que les deux grands films, donc ce qu'on venait d'évoquer, racontent un Moulin Rouge dans le temps. Donc c'est
bien
avec
sûr.
Une nostalgie. Quand les autres films que vous venez d'évoquer, c'est un Moulin Rouge actuel, c'est un Moulin Rouge des années 50.
Des années 50, voilà. C'est ça. En tout cas, Francesco Rapazzini, je suis heureux que vous soyez là. C'est pas la première fois parce que vous êtes venu il y a quelques années, plusieurs fois dans cette émission, nous parler de chansons italiennes en particulier. On l'a compris à votre accent, vous avez quelques origines de ce côté-là. Et voilà, qu'est-ce qui vous a tout d'un coup poussé à vous passionner comme ça pour le Moulin Rouge dans ce livre qui n'est d'ailleurs pas une histoire du Moulin Rouge, mais une histoire des œuvres d'art inspirées par le Moulin Rouge?
Oui, alors tout naît parce que j'avais écrit une biographie de Damien, la grande chanteuse
réaliste.
Bien sûr,
on en avait parlé ici d'ailleurs.
Voilà. Et donc de là, Damien même s'était produite sur la scène du Moulin Rouge. Et donc, avec une éditrice, on avait évoqué l'idée de parler du Moulin Rouge. Mais je ne voulais pas raconter l'histoire du Moulin Rouge.
Ça a déjà été fait, d'ailleurs, voilà, pas mal de fois.
Exactement, oui. Et merveilleusement bien. Et donc, je voulais m'intéresser des artistes. C'est un peu, c'est plutôt mon milieu aussi, m'intéresser des écrivains, de peintres, de réalisateurs.
Vous avez lu combien de romans? Parce que vous en citez à toutes les pages.
Je ne sais pas, je ne les ai pas comptés, mais il y en a des milliers, des centaines, des milliers. Mais il faut dire que le premier roman qui a utilisé le mot Moulin Rouge dans son titre a été La Vierge du
Moulin
Rouge.
J'adore celui-là. Ah oui, ça très très envie de le lire. Ouais. Et ça a même servi de titre deux fois, je crois.
Deux fois, oui. Ça a été fait en 1893 et après, à nouveau, dans les années 20, au milieu des années 20. C'est par deux écrivains complètement différents et les histoires sont complètement différentes.
Et dans votre livre, effectivement, alors évidemment, on retrouve Maupassant, on retrouve de grands écrivains, on retrouve Colette, on retrouve beaucoup d'autres, mais aussi des tas de noms complètement oubliés qui se mêlent et qui ont écrit des romans au fil du temps sur le Moulin Rouge. Georges Segault, Georges Darrien, Félix Champsaur, etc., etc.
Oui, mais parce que le Moulin Rouge a toujours fait rêver les écrivains, parce que c'était le Moulin Rouge était fédéré tous les milieux. Tout le monde allait au Moulin Rouge, donc du plus populo aux grands aristos. Et donc ça faisait rêver. C'était un microcosme où tout se passait. Là-bas naissaient des amours. Là-bas il y avait des amours tarifés. Là-bas il y avait des rencontres artistiques. Et donc on pouvait tout raconter dans un roman. C'était magnifique. Ça suffisait d'y aller deux fois et on avait la matière pour écrire trois romans.
Voilà, mais évidemment, l'ingrédient principal dans l'imagerie du Moulin Rouge, c'est le cancan, et le cancan tiré principalement, on peut dire, donc de cette page d'Orphée aux Enfers d'Offenbach. Cancan endiablé sous la baguette de Marc Minkowski, donc Orphée aux Enfers. Alors, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans l'histoire du Moulin Rouge, donc Francesco Rapadini, mais pas le décor et pas la musique d'Offenbach pour le cancan. Hein. C'est toujours présent.
Exactement, mais on ne peut pas imaginer le Moulin Rouge sans le cancan, et on ne peut pas imaginer les cancans sans l'Offenbach.
Sans le Moulin Rouge. Mais en même temps, ce que vous expliquez fort bien dans votre livre, c'est que le cancan, qu'on appelait le chahut, il a une origine qui est presque autant picturale sociale que musicale, puisque c'est à travers notamment une gravure, un tableau.
Un dessin de Gustave Doré. Doré. Voilà. Exactement. Alors Gustave Doré, en 1850, autour des années 1850, avait dessiné pour un journal, le journal Pour Rire, une grande fête masquée. Et ouais. Dans cette grande fête masquée, il avait dessiné des danseurs du cancan. Et il avait titré ce dessin le galop infernal.
Voilà, c'est
et
ça.
Probablement, moi j'ai dit sûrement, Offenbach a dû voir cette gravure, ce dessin.
Et ce morceau est titré galop infernal, si
voilà,
qu'on vient
ce qu'on vient d'entendre, c'est galop infernal. Et donc en 1858, pour Orphée aux enfers, il a introduit ce morceau qui dure 8 minutes en intégrale. Et c'est ce morceau-là qui est dansé depuis pour le cancan.
Voilà. Et c'est une danse plutôt un peu, on peut dire, bas de gamme à l'époque, hein, qui est assez mal vue, qui a un côté un peu obscène. Moi, j'adore, je cite cette phrase de Huysmans, ce que vous rapportez dans votre livre sur le cancan. C'est de l'élixir de crapule, de l'extrait concentré d'urinoir transporté sur une scène, de la quintessence de berge, de dessous de pont, enrobé dans une musique poivrée de cymbales et salée de cuivre.
Oui, les cancans, ils n'étaient pas considérés, c'était pas la valse, c'était
pas, voilà. L'élixir de crapule.
c'était vraiment malfamé et était dansé par les populos, par les gens de la basse.
Voilà. Mais c'est au fond Holler et son complice, le fondateur du Moulin Rouge, qui en font une danse à la mode, d'une certaine façon, un spectacle à la mode.
Oui, mais il faut dire aussi que les cancans étaient devenus un peu ringards. Ouais. Et sont les deux patrons du Moulin Rouge, les deux fondateurs du Moulin Rouge, qui décident de le remettre au goût du jour. Voilà. Et ils appellent donc des stars de l'époque à rejoindre le Moulin Rouge pour danser ces cancans.
C'est ça. Et pour l'inauguration de ce lieu qui naît donc à l'emplacement de l'ancienne Reine Blanche, je vous parlais tout à l'heure,
oui.
Au fond, c'est ça. Ils vont faire recruter vraiment des artistes choisis. Ce ne sont pas des gens qui sont arrivés là par hasard.
Hein. Non.
Quand on pense à Lagoulu, à Valentin le Désossé, à Gris d'Égout, ce sont des personnages qui ont été choisis dans un véritable casting pour lancer le Moulin Rouge.
Ils les ont chippés à d'autres endroits et,
voilà.
Et les ont fait monter sur la scène du Moulin Rouge. Et le premier soir, donc le Moulin Rouge a été inauguré le 6 octobre 1889 et ça a été un succès incroyable.
Voilà.
Mais qu'aujourd'hui, on peut même pas imaginer. Le lendemain, tout le journaux écrivait, on s'est jamais amusé autant. C'est magnifique, c'est incroyable, c'est super. Et alors, il faut penser aussi que un grand divertissement, aujourd'hui, ça fait un peu rire, mais les grands divertissements étaient de faire promener des belles femmes au dos d'un âne dans le jardin du Moulin Rouge. À l'époque, le Moulin Rouge avait un jardin.
Avec ce fameux éléphant.
Un stuc, mais cet éléphant est arrivé un moment après, pas tout de suite, c'était un éléphant de l'exposition universelle.
Ah oui.
Il y avait ces grands éléphants, il y avait une petite scène, et il y avait ce jardin dans lequel il y avait cette attraction qui...
Avec les femmes à dos d'âne.
Oui, ces dames, elles paradaient, c'était sûrement des prostituées de haute volée. Des demi-mondaines qui montraient leurs grands bijoux et s'offraient aux messieurs qui voulaient d'elles.
C'est amusant d'ailleurs de redécouvrir ces personnages alors, qui ont inspiré tant d'artistes dans votre livre. Par exemple, Valentin le Désossé, c'était pas du tout un prolétaire. Hein. Son frère est notaire, il a gagné toute sa vie très bourgeoisement tout en dansant le cancan au Moulin Rouge. Hein.
Exactement, mais c'était le seul qui ne se faisait pas payer.
Voilà.
Donc, lui,
il refusait même de se faire payer.
Il refusait. Ouais. Et puis, il n'était pas tout jeune hein, parce qu'il avait dépassé les 50 ans quand il dansait au Moulin Rouge. Et c'est quelqu'un très mystérieux. On sait très peu de sa vie encore aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui aimait danser avec Lagoulu. C'était son partenaire. Et Lagoulu, elle s'offensait si lui, il dansait avec quelqu'un d'autre. Et alors, on raconte, et elle-même le raconte, qu'elle lui cassait ses chapeaux mélons chaque fois qu'il dansait avec une une autre femme.
Alors la Goulue, elle aura un destin un peu sombre, mais il y en a aussi qui sont des un peu plus tournés vers le monde, justement comme Jeanne Avril, qui fait une vraie carrière à la fois de danseuse et de femme d'artiste, hein, avec Viseva, le biographe de Mozart, et ou encore avec Alphonse Allais. J'aime bien cette phrase qu'elle leur disait, elle trouvait que les gens devaient être rythmiques. Vous dites alors, elle déclarait à des messieurs riches, vous me dégoûtez, vous n'êtes pas rythmique.
Oui. Bon, Jeanne Avril était quelqu'un aussi qui a passé pas mal de temps dans un asile de fous. Elle était un peu folle.
C'est quand même une égérie.
Oui. Et puis, elle a beaucoup aimé des hommes. Il y a eu Alphonse Allais qui lui a même essayé de lui tirer dessus avec un revolver parce qu'elle s'était réfugiée.
C'est une preuve d'amour.
Oui.
En tout cas, voilà quelques-uns des personnages de cette première époque. Et puis la grande Yvette Guilbert, qui aussi se produit beaucoup au Moulin Rouge à ses débuts. Alors, il y a une chanson donc sur le Moulin Rouge qu'elle a chantée, mais qu'on n'a pas enregistrée par elle, qu'on va écouter par Nathalie Joly, qui l'a réenregistrée tout récemment. Hein. Juste un mot de cette chanson, le Moulin Rouge.
Oui, c'est une très belle chanson écrite par un monsieur qui s'appelait Maurice Bouquet, mais même au plus tôt, il s'appelait Maurice Quiba. Mais avec ce nom-là, on ne pouvait pas faire une grande carrière dans le spectacle, mais il a fait une grande carrière comme ministre. Il a été même, dans la politique, il a été même ministre. Il a été ministre du commerce et du travail en 1911 et en 1914.
Voilà, et il a laissé cette chanson, donc, qui est une des premières chansons sur le Moulin Rouge.
Oui, mais c'est une chanson très triste, c'est une chanson qui raconte le côté un peu sombre du Moulin Rouge, c'est pas le côté gay. Et lui aimait beaucoup le Montmartre. Il a été un amant de Damien notamment, il aimait et il était un grand ami de Paul Verlaine.
Sur la hauteur tout près des cieux, quand la nuit descend sur la terre, on voit s'allumer les grands yeux du brillant moulin de Citerre. Moutes-tu, moulin rouge, pour la mort ou pour l'amour? Pour qui moutes-tu jusqu'au jour? Je moue pour que les pauvres fous, les déshérités, les malades, aient moyennant 40 sous leur part d'amour et de balade. Je moue pour que les malheureux, les orphelins, les sans caresse et des hivers moins rigoureux. Je moue pour que les meurent de faim, oubliant que leur ventre gronde, s'enivrent de rythme sans fin. Je moue pour que éblouis, laisse passer l'heure où les ventrus et les malsains regagnent tremblant leur demeure. Moulin rouge, pour qui moutes-tu, moulin rouge, pour la mort ou pour l'amour, pour qui moutes-tu jusqu'au jour? Par l'ignominie, je moue un avenir meilleur. Je moue pour eux, je moue pour elles, je moue un avenir meilleur par la croix rouge de mes ailes. Moulin rouge, Moulin
Nathalie Joly, qui dans un disque consacré à Yvette Guilbert reprenait donc ce Moulin Rouge de Maurice Bouquet, une des innombrables chansons, peintures, dessins, affiches évidemment depuis le Villette jusqu'à nos jours consacrées au Moulin Rouge. Rien que ça, ce serait un sujet d'exposition, Francesco Rapatini.
Absolument. Mais c'est vrai, la première affiche a été dessinée par Jules Chéret.
Oui.
En 1889, évidemment. Et dans cette affiche, justement, on montre cette promenade au dos des ânes. Oui. Et la deuxième affiche est la plus célèbre, celle de Toulouse-Lautrec.
Bien sûr.
Avec la Goulue et Valentin les Désossés. Mais après, il y a eu Grune, il y a eu plein jusqu'à aujourd'hui. Alors, depuis les années 60 jusqu'à actuellement, il y a cette affiche, il y a cette série d'affiches dessinées et réalisées par René Gruau. René Gruau, qui était un dessinateur, illustrateur italien, et qui a dessiné chaque affiche depuis 1963. Depuis 1963, le Moulin Rouge a des revues qui commencent par un F, parce que ça porte chance. Et donc, depuis la première jusqu'à aujourd'hui, c'est Féerie, et c'est encore dessiné l'affiche par René Gruau, qui, hélas, nous a quittés dans les années 2000, au début des années 2000.
Voilà, et le Moulin Rouge, effectivement, a cette particularité d'avoir inspiré énormément d'artistes, mais en plus de continuer aujourd'hui, et ça on le comprend bien dans votre livre, où vous êtes allé jusqu'à l'époque contemporaine. Mais alors, revenons un tout petit peu au début du XXe siècle. Il y a aussi des histoires incroyables autour de Colette et de Willy. D'ailleurs, on donnera même une opérette de Colette sur une musique de Rodolphe Berger au Moulin Rouge. Mais il y a d'abord un véritable scandale mondain qui éclate. Racontez-nous un petit peu, Francesco Rapatini.
Oui, alors il faut savoir que Colette aimait les hommes et les femmes.
Ça, oui.
Et donc, quand elle a quitté son mari Willy, elle s'était mise en ménage avec Missy.
Missy, voilà.
Missy était...
Qui s'habillait toujours en homme.
Qui s'habillait un homme, qui était appelé oncle Jean. mais ce n'était pas un oncle, c'était une dame, pas une tante.
Et donc
avec Missy, elles ont créé une pantomime au Moulin Rouge en 1907. Et c'était une histoire d'un archéologue qui retrouve une momie et il défait les bandeaux de cette momie et la réveille avec un baiser. C'était donc deux femmes sur scène, un baiser entre deux femmes. Et donc le public n'a pas aimé, mais c'est pas vrai que le public n'a pas aimé. C'était un certain public. Donc à la première, le Moulin Rouge, le parterre du Moulin Rouge avait été complètement envahi par la noblesse et l'aristocratie haute bourgeoisie parisienne. Et donc ils ont commencé à jeter des gousses d'ail sur scène, à crier des gros mots aux deux dames, et même le pauvre Willy, qui n'était pour rien,
il s'est fait agresser violemment.
Il a essuyé des coups de poing en pleine figure.
Voilà, alors ça c'est une des innombrables anecdotes de ce monde artistique très mélangé, vous l'avez dit, qui fréquente le Moulin Rouge d'une époque à l'autre. Il y a une date importante évidemment, c'est l'incendie qui arrive et qui va être une rupture quand même dans l'histoire du Moulin Rouge. C'est en
1915.
Voilà.
Donc c'était pas une bombe, c'était pas non plus un fait de guerre, mais c'était simplement les loges des danseuses qui ont pris feu, et donc le Moulin Rouge a été détruit, et pendant 10 ans il est resté fermé.
Voilà, il reste fermé 10 ans, et là on va entrer dans une autre époque, parce qu'il y a eu au fond le Moulin Rouge qui était plutôt un bal des origines, et ça devient donc un musical, puisque c'est la grande vogue du musical entre les deux guerres, et ça devient un musical notamment sous l'impulsion de l'extraordinaire Jacques Charles, qu'on associe aussi au Casino de Paris, mais qui est également très présent dans l'histoire du Moulin Rouge.
Exactement, Jacques Charles et Miss Tinguette. Donc c'est un duo d'enfer, mais il faut savoir que le Moulin Rouge avait deux âmes, avait l'âme donc du moulin du cancan et de la du spectacle. Et puis, il y avait une partie pour le bal. Donc, il y avait deux Moulins Rouges. Et même à l'époque de Mistinguett, il y avait la grande salle pour les grandes revues. Et puis, il y avait une salle plus petite pour le bal. Et donc, à l'arrivée de Mistinguett, c'était les revues avec des paillettes, avec des plumes.
Et vous me faites découvrir dans ce livre cet extraordinaire dessinateur de costumes très proche de Mistinguett, qui va mourir jeune d'ailleurs.
C'est Gesmer, oui, Charles Gesmer. C'était un garçon qui est mort à 27 ans et qui avait une main incroyable. Et il était un boulimique du travail. Donc, c'était lui qui a dessiné les costumes de Mistinguett, c'était lui qui dessinait les affiches, c'était lui qui dessinait les décors.
Des quantités de dessins, hein, de croquis.
Et en plus, avec une... c'est contemporain, c'est magnifique, c'est avec une fraîcheur encore aujourd'hui qui étonne.
Et d'ailleurs, une exposition sera organisée après sa mort, hein, entre les deux guerres, au Moulin Rouge, justement, de tous ces dessins et
croquis. Oui, tout à fait, c'est Mistinguett qui l'avait organisé, et c'était un garçon, Mistinguett disait, il n'est pas viril, il est mieux que ça. Et c'était un garçon qui aimait les garçons, mais qui n'avait pas tellement le temps d'aimer les garçons, tellement il travaillait. Et justement, on ne sait pas de quoi il est mort, mais probablement il s'est drogué aussi beaucoup, et il est mort, il a miné complètement son physique entre le travail, la drogue et les excès.
Voilà, et Mistinguett, donc, au milieu des années 20, elle revient au Moulin Rouge après la période du Casino de Paris, et là elle va donner plusieurs grandes revues, dont la revue Ça c'est Paris, avec des chansons à succès. Ça c'est Paris d'ailleurs, la chanson titre, mais aussi Il m'a vu nu.
Un soir je faisais une pleine pour tout maillot, j'avais la peau, nul ne pouvait me voir, pour le ciel noir. J'allais lui dire ta bouche bébé, quand j'entendis près de moi un cri d'émoi. Y avait un homme sur un rocher pas assez haut. L'homme a fait oh et moi dans l'eau, moi j'ai fait oh. Il m'a vu nu. Sans cache-truc ni soutien machin, j'en ai rougi jusqu'au vaccin. Il m'a vu nu, oh, toute nue. Je me suis par respect humain voilé la face de mes deux mains. Mais je crois bien que par ce geste irréfléchi, j'ai négligé voilé quelques petits chichis. Il m'a vu nu, oh, tout nu, oh, plus que nu. Thank you.
Mistinguette, Il m'a vu nu, voilà une des productions du Moulin Rouge, donc dans cette grande période des revues que vous évoquez, évidemment, avec tous les artistes qui gravitaient autour de la vedette Francesco Rapazzini. Cette période des revues, d'ailleurs, dura un certain temps, et puis tout d'un coup, le Moulin Rouge va encore évoluer et va commencer à accueillir les spectacles de jazz dans une espèce, on dirait aujourd'hui, un partenariat avec le Cotton Club à New York.
Oui, alors il faut aussi savoir que le Cotton Club arrive à Paris avec ses grands stars américaines noires.
Et notamment le Duke Ellington, bien sûr.
Mais c'est assez bref, hein, parce que le Moulin Rouge, après Mistinguette et le moment du Cotton Club, après ça devient une salle de cinéma. Et parce que le cinéma a un peu tué le musical.
Voilà, ça commence déjà avant la guerre.
Oui. Voilà. Oui, tout à fait, c'est avant la guerre.
Alors, on peut revenir aussi à quelques-uns des artistes que vous évoquez dans cette période d'entre les deux guerres. Du côté des peintres, j'ai noté par exemple Gromaire ou encore l'extraordinaire Jeanne Paul, ami de Céline.
Et Jeanne Paul qui a fait énormément de dessins, de tableaux du Moulin Rouge. Alors Jeanne Paul qui est un cul de jatte.
Oui, j'ai appris ça dans votre livre aussi. Je connaissais sa voix, ses peintures, mais pas...
Ouais, c'était un peintre de Montmartre. Il avait,
oui, il avait vécu là-bas,
son atelier rue Lamarque. Ouais. Et c'était un monsieur un peu particulier et était un grand ami de Céline. C'était un des souteneurs il a soutenu
c'est pas exactement soutenu, oui il l'a soutenu,
oui, voilà.
Le mot souteneur renvoie à d'autres aspects du Moulin Rouge.
Il a soutenu toujours Céline, même au moment où Céline était tombée, il avait fui la France après l'occupation.
D'ailleurs, Marcel Aimé l'évoque aussi dans ses nouvelles du Paris de l'occupation. On pourrait citer Maurice Barrès, même on s'étonne de le voir comme ça passer au Moulin Rouge lui aussi.
Oui, mais il y a, on peut regarder presque n'importe quel.
Marcel Jouhandeau.
Oui, et même Anatole France.
Anatole France.
Ouais.
Tout le monde va au Moulin Rouge.
Oui, Jeep.
Voilà. Et puis Francis Carco, alors aussi l'autre grand écrivain peut-être le grand écrivain de Montmartre, avec son roman Jésus Lacaille, qui a aussi à voir avec le Moulin Rouge.
Tout à fait. Jésus Lacaille, c'est l'histoire. C'est une des premières grandes histoires homosexuelles dans laquelle on comprend pas si il parle de garçons ou des filles.
Oui, c'est ça.
Et donc Jésus Lacaille, c'est ce garçon très très mignon, très beau, qui fréquente énormément le Moulin Rouge. Et dans ce livre, il y a des descriptions du Moulin Rouge et il y a même l'histoire, la description d'un combat de pugilat entre deux femmes,
voilà,
au Moulin Rouge.
Un livre à relire, Jésus Lacaille de Francis Carco. On va écouter tout de suite la voix de Francis Carco. Alors là, bon, désolé, c'est pas au Moulin Rouge, c'est au Lapin Agile qu'il a fréquenté encore après la guerre. Mais on retrouve justement tout ce milieu d'écrivains qui sont aussi au Moulin Rouge au même moment, parce que les mêmes vont de l'un à l'autre, j'imagine.
Exactement. Il commençait la soirée d'un côté, il l'a terminé de l'autre.
Voilà. Et il raconte donc sa première visite avec ses amis artistes à une époque où il est très fauché. Donc au Lapin Agile.
Le premier soir que je suis arrivé ici au Lapin, il y avait à l'endroit même où se trouve le micro, la grande table à laquelle se trouvaient assis Picasso, Girieux, Paco de Durio, Coutet, Pierre Macorlan, Mac Jacob, Asselin, Varnaud, Édouard Gazagnon, les deux petits Deneffle et Berthe, la compagne de Frédé et Marguerite. Le Lapin, c'était pour nous plus une famille qu'un cabaret. On y avait crédit. Et alors, tout s'est passé d'une façon inespérée. J'étais au bout d'une petite table, pas à la grande encore, et j'étais, pardonnez-moi l'expression, en train de faire un petit peu de l'œil à une vieille dame, en me disant sûrement cette sœur-là doit avoir un lit. Et comme je n'en avais pas moi-même, je me disais ma soirée sera finie. Lorsque, tout le monde chantant, Frédé m'a dit « Et toi le nouveau ?»« T'en connais une ?» J'ai dit « Oui, je veux bien chanter une chanson. » J'ai chanté une chanson. Après cette chanson, ça a très bien marché. Et Macorlan m'a dit « Tu peux te foutre à la grande table. » Et à partir de ce moment-là, ma vie était complètement sauvée. J'étais paré, j'avais crédit. Voilà comment se passaient les choses dans ce temps-là.
Il y en a qui vous parlent de l'Amérique. Ils ont des visions de cinéma. Ils vous disent quel pays magnifique. Notre Paris n'est rien auprès de ça. Ces boniments la rendent moins timide. Bref, on y part un jour de cafard. Encore un de plus qui le ventre vide. À New York cherchera un dollar. Parmi les gueuses et les proscrits, les émigrants au cœur meurtri, il dira regrettant Paris. Où est-il mon moulin de la place blanche, mon tabac et mon bistrot du coin? Tous les jours pour moi c'était dimanche. Où sont-ils les amis, les copains? Où sont-ils tous mes vieux balmusettes, leur java au son de l'accordéon? Où sont-ils tous mes repas sans galette, avec un cornet de frites à deux ronds? Où sont-ils donc? Mais mon martre semble disparaître.
Fréhel, évidemment, dans une chanson qu'on connaît tous, Francesco Rapazzini, à travers le film Pépé le Moko, mais qui en fait est une chanson antérieure, hein, qui correspond à l'époque de la réouverture du Moulin Rouge.
Exactement, c'est une chanson qui a été écrite en 25, donc au moment où le Moulin Rouge rouvre. Et là, on entend Où est-il donc mon moulin, voilà. Parce que c'est plus le moulin.
C'est déjà la nostalgie de l'ancien moulin.
Exactement.
qui
exactement.
Commence avec la grande Fréhel. Malheureusement, on ne peut pas évoquer tous les aspects de votre livre qui est extrêmement riche, Francesco Rapazzini. On pourrait s'étendre sur la période évidemment de l'occupation où les soldats allemands vont beaucoup fréquenter le Moulin Rouge. On a évoqué tout à l'heure les films nostalgiques aussi qui vont arriver après la guerre. Et puis la réouverture du Moulin Rouge dans les années 50, quand même inaugurée par le président de la République en personne.
Hein. Oui, c'était...
Vincent Auriol qui est là.
Oui, et puis c'est en 51 et c'était Joe France qui avait racheté le Moulin Rouge et avait fait en sorte que le Moulin Rouge redevienne un peu le Moulin Rouge d'autrefois. Donc parce que le Moulin Rouge avait un peu dégringolé et donc lui il avait décidé de le remettre un peu au goût du jour.
Voilà.
Et donc
il y aura une nouvelle décoration d'ailleurs.
Oui, c'était donc les travaux c'était en 1950 avec Henri Mahé. Henri Mahé était un artiste, un peintre, lui aussi Montmartrois, était lui aussi un ami de Céline et lui a redessiné complètement le Moulin Rouge et le Moulin Rouge actuel,
voilà,
celui
c'est
qu'on
celui-ci.
Voit, c'est le sien. Donc la salle du spectacle, qui autrefois était la salle de bal, est celle qui a été repensée par Henri Mahé.
Voilà, la salle actuelle, d'ailleurs, que vous avez beaucoup fréquentée, Francesco Rapazzini, parce que je crois que les responsables du Moulin Rouge, aujourd'hui, sont attachés à l'histoire de ce lieu et vous ont ouvert leurs archives et se sont intéressés à votre travail.
Oui, mais il faut savoir que depuis la fin des années 50, le Moulin Rouge appartient à la même famille. C'est la famille Clerico, ce sont des Piémontois qui sont arrivés en France et qui aiment énormément ce lieu. Et c'est désormais c'est la troisième génération qui a le Moulin Rouge, qui détient le Moulin Rouge.
Et les archives.
Et les archives. Oui. Les archives, il faut dire aussi que les archives ont commencé à être importantes et intéressantes à partir de... Mais oui. Ça veut dire que avant le Moulin Rouge ne gardait rien.
Oui.
Et c'est la nouvelle génération qui achète et rachète ce qu'ils peuvent du Moulin Rouge et de l'histoire du Moulin Rouge.
Et le Moulin Rouge est toujours une source d'inspiration. Alors aujourd'hui encore, hein, vous citez par exemple un récent roman de l'excellent Christophe Donner qui raconte l'histoire du fondateur du Moulin Rouge.
Oui, tout à fait. Mais il n'y a pas seulement la littérature, il y a aussi des peintres. La couverture de mon livre montre une œuvre d'une artiste anglaise qui s'appelle Jo Bruton. Il y a des artistes contemporains, il y a des peintres, il y a Arnaud Franc, il y a plein de peintres d'aujourd'hui qui encore s'inspirent à ce lieu incroyable.
Et le dernier film, Moulin Rouge de 2001,
c'est de Baz Luhrmann.
Vous l'avez aimé celui-là ?
Alors, quand je l'avais vu à l'époque, non. Et aujourd'hui, je l'adore.
Finalement, d'accord. Voilà, en tout cas, c'est toujours un sujet d'inspiration pour de nouveaux films. On va se quitter, Francesco Rappadini, avec la musique de George Auric pour le Moulin Rouge de Huston, qui a donné lieu à des versions absolument innombrables. Je vous propose celle-ci qui est en cha-cha-cha. Edmundo Ross et son orchestre dans Le Moulin Rouge, Cha-Cha-Cha. Voilà, on a parlé du livre de Francesco Rappadini, Le Moulin Rouge en folie, aux éditions Le Cherche-Midi. Vous restez avec nous, Francesco Rappadini, mais je me tourne sur mes autres invités qui nous ont rejoints. Mathieu Frano, bonjour.
Bonjour.
Christophe Mirambeau, bonjour.
Bonjour.
Vous connaissez bien aussi l'histoire du Moulin Rouge. J'ai envie de dire, de toute façon, vous êtes le plus grand connaisseur, notamment des revues, de ces revues à grand spectacle de l'entre-deux-guerres sur lesquelles vous avez travaillé pendant des années, pour les éditions Salabert et autres. Et j'avais envie de demander d'ailleurs une revue de musical. Qu'est-ce qu'il en reste concrètement pour un musicien, pour un éditeur de musique? Ça ressemble à quoi une revue? Ça existe
N'existe pas.
Ça n'existe pas.
Puisque ce sont des spectacles ponctuels,
oui.
Qui sont destinés à mourir, quoi qu'il en soit, dès la première minute de leur écriture.
Donc vous n'avez pas chez Salabert des gros dossiers, revues, ça c'est Paris, avec toutes les chansons, les textes, etc.
Non, tout ça est normalement dans les archives des théâtres, mais la notion patrimoniale dans les théâtres est quelque chose forcément de très volatile.
Ouais.
Donc c'est selon les directions et selon la volonté, comme le rappelait Francesco, des différentes équipes, qu'il y a une conservation de ces matériels. Donc, par exemple, pour la revue Ça c'est Paris,
ouais.
il reste édité chez Salabert, en archive, les formats et les petits formats, les pianos chants quoi,
et les scènes,
et les chants seuls,
les scènes jouées,
et tout ça n'est pas édité parce qu'en plus tout ça a été appelé à être modifié des fois en cours de revue.
Voilà. Alors la revue, ben justement, c'est un genre que vous aimez au point que vous en présentez une dans quelques jours à Paris avec les frivolités parisiennes. Mathieu Frano ici même.
Voilà.
On va en parler tout de suite de cette revue qui s'appelle Paris Chérie et qui comporte des chansons sentimentales, amoureuses. Et même parfois un petit peu osé.
Ma mère, il faut que je vous dise que le gars Jean-Pierre, un matin, me rencontrant près de l'église, m'emmena chasser le lapin. Les belles manières de ce jeune homme, je l'avoue, me plaisaient beaucoup. C'est pourquoi j'acceptais en somme. Qu'est-ce que je risquais? Rien du tout. Moi, je portais la carnassière d'un petit air hardi. Et lui portait en bandoulière son joli petit fusil. Ce fusil à deux coups, ma mère, était un merveilleux objet que lui avait acheté son père à sa naissance, à ce qu'il paraît. Comme je suis très curieuse et que j'adore tout savoir, je lui dis, je serais heureuse si tu voulais me le faire voir. Alors le galant, pour me plaire, le sortit de son étui. Oh, le joli fusil, ma mère, oh, le joli fusil. Le canon était plein de charme, oui, mais pendant que je maniais cette belle et dangereuse arme, Jean-Pierre dans le cou m'embrassait. Il faisait un soleil superbe, tout à coup, sans savoir pourquoi, je tombais sur le dos dans l'herbe, avec le fusil dans les doigts. Comme sur moi roulait Jean-Pierre, voilà que le coup partit. Oh, le joli fusil, ma mère, oh, le joli fusil. Est-ce la longueur de la route ou la lourdeur d'un ciel trop doux? On s'est endormi sans nul doute avec le fusil entre nous. Au réveil, on revint au village sans avoir vu le moindre lapin. Depuis, je grossis du corsage et je ne me sens pas très bien. Ce n'est rien, répondit la mère, dans quelques mois d'ici, ton fils portera comme son père un joli petit fusil.
Le joli fusil par Bert Silva. Alors Christophe Mirambeau, ce qui est merveilleux dans cette époque, c'est qu'on savait dire des choses très osées, mais... sans vraiment les dire.
Oui, c'est cette espèce d'élégance du deuxième degré, du non-dit ou du trop-dit en deuxième degré,
voilà.
qui époustoufle toujours parce qu'il y a une liberté de ton. Et une
surtout
liberté
quand c'est Bert Silva qui nous chante tout d'un coup une chanson quand même très leste.
Voilà, et c'est ce plaisir-là, ce plaisir des mots associé à de la vraie musique derrière.
Qui vous a donné l'envie de faire Paris Chérie?
Oui, c'est exactement ça. Je me suis dit, il faut faire découvrir ce genre de choses. Et puis, avec Mathieu Frano, on se disait, bon, quand même, l'époque est un peu lourde, là, avec tout ce qui se passe dans le monde, à Paris, ouais, les attentats,
ouais,
etc.
Facile.
On s'est dit, revenons aux fondamentaux.
Revenons à Paris, mais dans les années 20.
Et restons parisiens, avec ce qui fait Paris, c'est-à-dire l'humour, le glamour, le sexe, la séduction. Et
donc,
le luxe.
Donc c'est une vraie revue au sens du mot, c'est-à-dire avec un fil conducteur, des petites histoires et des chansons, ou c'est plutôt un tour de chant?
Ah, j'ai sous-titré ça Fantasy Revue,
oui.
Parce que cela tient du tour de chant, mais j'ai 5 artistes et 16 musiciens, mais il y a des choses chorégraphiées et mises en scène, avec des petites histoires entre chacun des artistes.
Voilà.
Et le fil conducteur, évidemment, c'est... toutes ces chansons sexy, voire sexuelles, que l'on peut entendre et qui sont assez rares à être entendues.
Ça s'appelle Paris Chérie et c'est au théâtre Trévise, hein, dans le 9e arrondissement, du 3 au 14 janvier. Et c'est l'occasion de retrouver aussi Mathieu Frano, votre compagnie que j'ai déjà reçue, Les Frivolités Parisiennes. Vous êtes un passionné d'opérette,
voilà.
D'opéra comique, mais aussi maintenant de musical.
C'est ça. L'année dernière, en fait, avec Christophe, on s'était déjà associé pour recréer le Yes de Maurice Yvain, il y a eu un énorme succès et c'est vrai qu'avec Benjamin Elherbi, mon associé, on s'est pris de passion aussi pour ce répertoire. Du coup, on a étendu un petit peu notre répertoire qui au début devait s'arrêter en 1910,
oui.
Pour aller un petit peu plus loin. Et
vous avez même changé le nom de l'orchestre, hein, les Frivolités Parisiennes sont devenues le Frivol Ensemble.
Voilà, c'est parce que là en fait on peut pas avoir l'orchestre des Frivolités Parisiennes en entier puisque voilà, le théâtre est trop petit et comme ça se faisait souvent à l'époque, on a réduit aux solistes en fait de l'orchestre des Frivolités Parisiennes qu'on a appelé Frivol Ensemble pour un peu différencier les deux formations.
Mais vous continuez ce même travail au fond qu'avec les opéras comiques,
bien
les
sûr.
Opérettes, c'est essayer de retrouver quand même une couleur qui corresponde à cette
voilà,
répertoire.
Voilà, on a travaillé beaucoup sur les arrangements et ce qui est dingue, c'est que voilà, on commence à avoir vraiment une certaine habitude du travail du répertoire de l'opéra comique. D'ailleurs, on donne le Petit Duc de Lecoq prochainement, donc on reste aussi dans cette idée de répertoire. Et là, c'est vrai que sur ce style un peu nouveau pour nous, et ben ça vient très simplement. Enfin, le style est là et les musiciens sont tous ravis de jouer ça.
Christophe Mirambeau, dans les chansons du spectacle, il y a également celle-ci qui est de Odette. Rappelez-nous juste en deux mots qui était Odette et puis on l'écoute.
Odette est une espèce de grande vedette montmartroise qui avait un cabaret. Il avait racheté l'abbaye de Thélème et qui s'est ensuite appelé chez Odette. Et il était habillé en vieille marquise, poudré, pomponné. Il agressait à la bruant ses clients et il faisait son tour de chant dans son cabaret en vieille marquise en chantant des chansons très lestes.
Chanson que nous avons ramenée de Sénéoise. À Bouffémont, allons-y! Entre Paris et Pontoise, il existe aux environs un patelin en Seine-et-Oise qui s'appelle Bouffémont. Mon ami vient d'y acheter une villa et chaque été, Il passe ses journées entières à bouffer mon
foin foin.
Il délaisse même ses affaires pour bouffer mon
foin foin.
Il n'a pas, je vous le certifie, d'autres ambitions. Son seul plaisir dans la vie, c'est bouffer mon
foin foin.
Toutes les fois qu'il doit se rendre à Paris pour quelque temps, en l'embrassant d'un air tendre, je lui dis ne reste pas longtemps. Mais loin de moi, il a le cafard, et deux ou trois jours plus tard, il reprend le train d'urgence pour bouffer mon
foin foin.
Et pendant le trajet, il pense à bouffer mon
foin foin.
L'exil pour lui, c'est bien rude, le pauvre garçon, il a tellement l'habitude de bouffer mon
foin foin.
Comme jamais on ne se quitte, je vous jure que quelquefois, à la fin cela m'irrite de l'avoir toujours devant moi. Je lui dis va donc faire un tour, et là s'il revient toujours, il est tout le temps dans mes jupes à bouffer mon
foin foin.
La seule chose qu'il préoccupe, c'est bouffer mon
foin foin.
Des fois c'est une rigolade comme distraction, il invite ses camarades à bouffer mon
foin foin.
Couplet patriotique. Comme il est très sympathique, la municipalité, dans un geste magnifique, l'a fait nommer député. Et maintenant, il n'y a pas d'erreur, afin de plaire aux électeurs, faut voir comme il se démène pour bouffer mon
foin foin.
Mais je crains qu'il se surmène à bouffer mon
foin foin.
J'ai beau lui dire par prudence, mais ménage-toi donc, voyons. Et le lendemain, il recommence à bouffer mon
foin foin.
Soin, soin. Merveilleuse.
Une des chansons extraites de Paris chéri, une fantaisie revue, imaginée et mise en scène par Christophe Mirambeau au théâtre Trévise à partir du 3 janvier avec notamment le Frivole Ensemble, 16 musiciens venus donc des frivolités parisiennes, représentés ici par Mathieu Frano. Un mot peut-être sur le décor qui est très dépouillé, mais par contre les costumes qui sont tous en deux couleurs.
Oui, j'ai demandé à une merveilleuse costumière qui s'appelle Daniela Telle d'imaginer les costumes de ce spectacle. Donc, tout le spectacle est looké des couleurs de l'amour, hein, le noir et le rouge.
Voilà.
Donc, c'est évidemment très chic, très élégant. On a gardé l'idée du luxe. Le luxe à Paris, c'est aussi d'avoir un orchestre de 16 musiciens pour faire de la chanson. Il n'y a aucune production privée qui puisse aligner ça. Et nous avons ce luxe-là d'avoir un vrai orchestre et des orchestrations refaites à neuf par des gens extraordinaires.
Alors, refaites à neuf, mais donc en essayant de trouver la couleur qui convient. Et est-ce qu'on a des... On peut s'appuyer sur des matériels d'époque ou des choses comme ça, Christophe Mirambeau, Mathieu Frano?
Ce qui est rigolo, c'est que, évidemment, nous, avec Frivolité, on aime évidemment restaurer tout ce qui n'existe plus. On a restauré des partitions perdues,
d'accord,
comme du Marcel Lattès, par exemple, ouais, ou du Mihaly Eisenman, qui a été un compositeur hongrois très, très à la mode dans les années 30. On les a refaites dans le goût d'époque.
En écoutant par exemple les enregistrements, j'imagine que ça donne des idées sur le genre de couleur qu'on va obtenir.
Et parfois ça n'a pas été enregistré parce qu'on travaille aussi à partir de partitions, hein, on lit et on choisit. On réimagine le style original, des fois en nettoyant ce que nos oreilles contemporaines ne pourraient pas supporter. Je pense là par exemple aux chansons de Dranem. Quand on écoute les vieilles chansons de 1907 dans les orchestrations pour Dranem, on a besoin d'un petit coup de plumeau. Et on garde ce goût à l'ancienne avec une vision tout à fait contemporaine et actuelle de travail d'orchestre.
Mathieu Frano, on a l'impression que les frivolités parisiennes, c'est vraiment la passion qui vous anime, parce que j'imagine que le marché, malheureusement, opérette musicale, aujourd'hui, il est quand même très restreint, le nombre de salles qui peuvent en faire, financer des spectacles, mais vous êtes encore très jeune et avec toute votre bande, vous vous passionnez pour ça depuis des années.
C'est vrai que c'est
par
très
amour
restreint
de l'art.
C'est pas toujours simple de convaincre les directeurs de théâtre de se plonger, d'essayer de faire découvrir ça à leur public. Mais on y vient puisque on peut voir, on a commencé en 2012 et du coup ça continue à se développer. Il y a de plus en plus de représentations et Voilà, je pense qu'il y a, vraiment un regain d'intérêt aussi pour cette période. Et on a envie aujourd'hui de redécouvrir ça. Et puis on espère un jour pouvoir aussi faire des créations et essayer de retrouver ce style typiquement français.
Et vous êtes rapproché aussi d'une autre compagnie, d'ailleurs, à Repo, les Grands Boulevards, qui est aussi partenaire de cette
aventure. Voilà, c'est la compagnie Christophe, qui travaille sur ce répertoire en particulier.
Voilà. Alors on va écouter justement un petit extrait du spectacle précédé par la version originale, si j'ose dire.
Ouais, hein, la petite chose amusante, c'était d'avoir Huguette Grégory qui chante un bout de la chanson et nous qui continuons dans la restauration de cette partition qui n'existe plus.
Elle vient gâcher le métier, c'est fort régulier.
Un bien joli montage qui donne une idée du travail des chœurs, de l'orchestre, dans ce spectacle Paris Chéri que vous présentez au Théâtre Trévise. Et puis les chanteurs, évidemment, qui ont peut-être aussi eu un travail particulier à faire, Christophe Mirambeau, pour retrouver quelque chose qui ressemble à une diction adaptée à ces chansons.
Déjà, nous avons choisi un les casting qui est le goût et le style. Et puis nous avons Charlène Duval, qui est l'impératrice du musical, une des dernières grandes représentantes de la chanson
carrément.
À l'ancienne. Oui,
faut qu'elle vienne ici alors.
Voilà, bah oui, il faut absolument l'inviter.
Prochaine invitée.
Et puis Léo Vaniro qui est incandescente de charme et de sex appeal. On a Alexis Mériot qui est un ténor qui a de l'œil et de l'esprit. On a Pascal Néron qui est un comédien chanteur plein de qui est vibrionnant. Et puis nous avons Guillaume Beaujolais qui est un baryton acteur qui est absolument tordant. Et tout ça fait une équipe extrêmement sympathique et pleine d'énergie et de drôlerie en scène.
Bah merci Christophe Mirambeau, merci Mathieu Frano d'être venu nous dire quelques mots de ce spectacle. On va se précipiter pour le voir. On va se quitter avec une autre chanson du spectacle. Elle est extraite du film Atoll K avec Laurel et Hardy et avec une grande vedette féminine, n'est-ce pas, hein, Christophe Mirambeau, une grande artiste. Alors on la salue parce qu'aujourd'hui, elle fête ses 99 ans. Je lui dis bon anniversaire, Suzy Delair.
Laissez-moi faire. Il n'y a rien de pire que d'être seul la nuit. Lorsque le cœur soupire, excusez-moi, on meurt d'ennui. Mais pourquoi se décourager? Tout ça peut si bien s'arranger. Si vous avez un petit cœur solitaire, laissez-moi faire, laissez-moi faire. J'ai tout ce qu'il faut sur moi pour vous distraire. Laissez-moi faire, vous ne le regretterez pas. Je sais les mots que tous les hommes espèrent. Laissez-moi faire, laissez-moi faire. Quand il le faut, je sais aussi me taire. Et vous verrez comme on s'entendra. Je me donne à l'amour sans détour, mais il me le rend bien. On ne m'aime qu'un jour, un seul jour, oui mais on s'en souvient. Quand je me donne tout entière. Laissez-vous faire, c'est mon affaire. Je suis vraiment experte en la matière. J'ai mes baisers pour certificat. Ah, que voulez-vous, je suis faite pour ça. Ah, levez la main, les candidats. Il n'y a pas beaucoup de candidats ce soir. Et pourtant, ne croyez pas surtout que j'exagère. Laissez-moi faire, laissez-moi faire. J'ai le cœur lourd, mais j'ai la main légère. Vous serez surpris par le résultat. L'amour pour moi n'a plus aucun mystère. Laissez-vous faire, monsieur, laissez-vous faire. Je suis très chatte. Miaou, 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 miaou. Et même un peu panthère. Et mes deux bras sont de vrais bras. N'hésitez pas. Ah, ah, cueillez l'amour quand il est là.
Suzy Delair dans cette chanson d'Ornez et Misraki. Suzy Delair en 1952 à la Suisse romande. Laissez-moi faire une chanson que vous pouvez donc retrouver dans le spectacle Paris Chéri au théâtre Trévise. C'est du 3 au 14 janvier à 20h30 à Paris, à retrouver sur internet. Et puis également donc à lire entre deux représentations de Paris Chéri, Le Moulin Rouge en folie de Francesco Rapazzini, un livre passionnant qui est sorti aux éditions du Cherche Midi. Prestissimo d'Emile Waldteufel par l'Orchestre National de l'Opéra de Monte Carlo sous la direction de Willy Boskowski. Emile Waldteufel, comme on dit le Johann Strauss français, il sera d'ailleurs à l'honneur demain matin au cours du concert du Nouvel An 2017 sous la direction de Gustavo Dudamel.
Benoît Dutertre. Étonnez-moi Benoît, France Musique.
Et d'un orchestre à l'autre, nous allons continuer dans le genre brillant avec les morceaux qu'a rassemblés pour nous l'ami Serge Elaïc. Bonjour Serge.
Bonjour Benoît.
Voilà, dernière émission de l'année, Saint-Sylvestre, orchestre, paillettes oblige, vous nous avez concocté un pot-pourri.
Et oui.
Brillant.
Alors, absolument. Et alors, pour prolonger votre entretien avec Francesco Rapazzini à propos du Moulin Rouge, eh bien, je souhaitais offrir aux auditeurs de France Musique un petit voyage musical festif en sillonnant la capitale pour redécouvrir, entre autres, la gaieté parisienne.
Un extrait de Gaieté parisienne sous la direction de Charles Dutoit. C'était en 1984 et c'est donc le début de cette promenade avec Serge Elaïc.
Et oui, alors vous ne me croirez peut-être pas, cher Benoît, mais tout à l'heure, j'ai emprunté le pont Mirabeau avant d'arriver à la maison de la radio et sur ce pont, je me suis retrouvé nez à nez avec Marcel Amont et Annie Cordy.
Vraiment ?
Et oui, absolument. Et ils discutaient, ils se racontaient une histoire vraiment bizarre.
Sous le pont Mirabeau coule la Seine.
Et pourquoi tu dis ça ?
Eh bien, parce que j'imagine le pont de bambou de la rivière Kouai enjambant la Seine à la place du pont Mirabeau.
Et les moineaux de Paris en train de siffler en chœur.
Attends.
Si, si. Oh non, non, et non, non, ça va bien comme ça. Hein. Moi, Paris, moi, je l'aime tel qu'il est.
Ah, oh, tu sais, ce sont pas que des petits changements par-ci, par-là. Qui...
Ah, écoute, il faut lui laisser son caractère à Paris. Paris clin d'œil, Paris titi, Paris canaille.
Thank you.
Paris Canaille par Alfred House et son orchestre. Et puis salut à Marcel Hamon et Annie Cordy qui nous écoutent peut-être ce matin, Serge Laïc.
C'est possible. Alors Benoît, avant d'aller au Moulin Rouge rencontrer Pierre Porte, le compositeur depuis bientôt 30 ans des musiques de ce célébrissime cabaret, eh bien, nous prendrons un taxi et nous descendrons les Champs-Élysées pour apprécier les reflets de Paris grâce à l'inspiration brillante du compositeur et chef d'orchestre Paul Bonneau.
Hey, taxi!
Avenue des Champs-Élysées, c'est Paul Bonneau qui dirige lui-même son orchestre, d'ailleurs, Serge et Laïc.
Oui, pour nous rendre au Moulin Rouge. D'ailleurs, nous y sommes maintenant et le compositeur Pierre Porte est là. Il nous raconte ses débuts au Moulin Rouge quand il fut engagé par Jackie Cléricault, le patron de ce cabaret connu tout autour du monde.
Ah ben ça a commencé en 87, oui. Jackie Cléricault m'a fait confiance la première fois sous l'égide de Ruggero Angeletti, qui est un des metteurs en scène du Moulin Rouge depuis longtemps, avec Doris Hogg. Et moi j'ai commencé donc avec le spectacle formidable qu'on a créé en 1988 pour le centenaire du Moulin Rouge. Et les paroles disaient « C'est formidable, nous fêtons un centenaire, c'est formidable, un joyeux anniversaire. »
Formidable, la revue du Moulin Rouge, musique de Pierre Porte. D'ailleurs, Francesco Rapadini, qui est toujours avec nous expliquait tout à l'heure que toutes les revues commencent par F,
oui,
hein, c'est
ça? Je voulais le dire, absolument. Parce que, en fait, la famille Cléricault, depuis 1963, comme Francesco Rapadini l'a dit tout à l'heure, eh bien, la famille Cléricault ne choisit au générique, peut-être par superstition, je ne sais pas. Donc, elle choisit que des noms de revues débutant par F. Alors, il y a eu Froufrou, d'abord, Frisson, Fascination, ah, voilà. Fantastique, Festival formidable dont nous venons d'entendre un extrait. Alors, après 11 années d'existence, eh bien, Formidable a cédé sa place à Ferry. Et depuis 17 ans, ça fait 17 ans que Ferry est à l'affiche du Moulin Rouge. Et la musique est donc composée par Pierre Porte sur des paroles de Charles Level. Et Pierre Porte m'avait dit que le titre même de la revue Ferry avait été pour lui une source d'inspiration déterminante pour trouver le thème principal. Et nous écoutons donc un extrait de Ferry.
À Paris, chaque nuit, Ferry. Dans la brume, tout s'allume, Ferry. Paris n'a pas sommeil, alors il se réveille et il s'invente
Féerie, la revue du Moulin Rouge, musique de Pierre Porte, parole de Charles Level, un spectacle qui continue puisqu'on l'a vu ce matin, l'histoire du Moulin Rouge est loin d'être terminée, Serge Laïc.
Alors, pour conclure, nous, notre petit périple musical, eh bien, le chef d'orchestre américain David Rose, le compositeur, entre autres, du célèbre thème Holiday for Strings, eh bien, David Rose interprète Waltzing Bubbles, les bulles valsantes, les bulles de champagne, bien sûr, en ce 31 décembre. Petit détail, chaque année, 240 000 bouteilles de champagne sont consommées au Moulin Rouge.
L'excellent David Rose, par ailleurs époux de Judy Garland.
Absolument.
Serge Laïc, qui dirigeait la valse des bulles. N'en buvez quand même pas trop ce soir. Hein, Serge, on compte sur vous le mois prochain.
Absolument, oui. Bon concert du Nouvel An demain, Benoît. Et donc rendez-vous en 2017.
Rendez-vous en 2017. Bonne année à vous, Serge.
Merci à vous aussi, à toute l'équipe.
Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Dutertre préparée par Annick Aumier, avec aujourd'hui à la technique Cécile Gissot, entourée de Raphaël Bézikian et Julien Calvas, réalisation Swad Boukorsa. Et on se retrouve donc bien sûr l'année prochaine, exactement samedi prochain. J'aurai le plaisir, pour parler notamment d'opérette, de recevoir Jean-François Kahn. Bon week-end à tous et bon réveillon. Mais c'est l'heure maintenant sur France Musique de retrouver Philippe Venturini.